Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Là, j'en ai prêché un message, je sais pas si j'ai le temps de finir, il est déjà 10h15. Pouah. Mais ce message est extrêmement important pour l'Église. J'aimerais vous demander sincèrement, qui d'entre vous avait le désir ardent de marcher sous un ciel ouvert ? De vous lever le matin et de savoir que le ciel est ouvert au-dessus de toi et que rien ne fait obstacle à tes prières. Lequel d'entre vous avez envie de dire avec puissance et foi et joie que l'Église Extravagance marche sous un ciel ouvert? Vous savez que l'Église de Christ, je parle avec un grand E, l'Église de Christ, c'est la famille de Dieu. Et la famille de Dieu est éternelle. Mais une église locale ne l'est pas. Et il y a des églises locales qui fleurissent, qui grandissent, qui mûrissent. Des églises locales qui sont bénies de Dieu. Et malheureusement, il y a des églises locales qui meurent, qui ferment leurs portes. Le pasteur abandonne, l'église se vide, les gens se critiquent, on se juge et l'église meurt. Et j'ai fait une enquête dernièrement et je me suis demandé quelles sont les caractéristiques d'une église que Dieu bénit continuellement. Quelles sont les caractéristiques d'une église que Dieu bénit continuellement? Comment se fait-il qu'il y ait des églises qui sont bénies d'autres noms? Comment se fait-il qu'il y ait des chrétiens qui sont bénis d'autres noms? Mais Seigneur, j'aimerais tellement que chaque membre de l'église d'Extravagance soit des chrétiens qui marchent dans un ciel ouvert. Alors ce matin, j'aimerais commencer ce message qui va peut-être durer peut-être deux célébrations. J'ai pas besoin de tout finir, c'est impossible de tout finir. Mais ce message est vraiment un message simple mais puissant. Soyez attentifs, s'il vous plaît. On va prendre du temps ensemble de décortiquer la parole de Dieu et de se dire qu'est-ce qui fait qu'il y a une église qui est bénie. Est-ce que vous voulez être une église bénie? Une église où le monde dit je veux ce que tu as. Je veux le Seigneur que tu sers. Je veux le Dieu que tu honores. Je ne veux pas d'une idole, d'une statue. Je ne veux pas d'un objet. Je veux du Dieu qui donne la vie. La vraie vie commence de l'instant où la vraie vie vient dans ta vie. Cette vie, c'est Christ. Alors j'aimerais ce matin te demander, est-ce que tu aimerais apprendre à rester vivant, en feu, rempli de Dieu? Comment être une église qui marche d'un ciel ouvert? Quel est le secret de ce genre d'église? Et vous savez, dernièrement, on me pose la question, Bruno, qu'est-ce qu'on fait si on rencontre des chrétiens qui meurent à petit feu, qui sont dans une église morte? Et je vais être franc ce matin, je vais balancer ce que j'ai à dire sur mon cœur. Comment faire si on trouve des chrétiens qui sont rétrogrades, qui ne sont plus dans aucune église? Est-ce qu'on peut les inviter à Extravagance? La réponse est oui. Parce que vous et moi, nous sommes responsables de ceux et celles que Dieu met sur notre route. On ne peut pas laisser des hommes et des femmes aller nulle part et mourir à petit feu. Nous devons les encourager à trouver de bonnes églises locales dans lesquelles les pasteurs passent du temps dans la prière. Une église locale remplie du feu de Dieu. Ne fréquentez pas une église locale qui n'est pas en feu pour Dieu. Ne fréquentez pas une église de religion. Fréquentez une église qui a l'approbation de Dieu. Ça paraît fou, ça paraît dur. Mais si vous voyez un enfant qui est abusé par des parents, votre réflexe est d'enlever cet enfant et de le mettre en protection. Et nous, l'Église, nous devons agir comme ça. Si nous voyons des chrétiens qui sont abusés, nous devons les aider à aller trouver une église, une famille qui va les restaurer. Alors la réponse est oui. Devenez et devenons ce matin une église bénie et aidons les gens qui ne sont pas bénis à être bénis. Tout le monde dit, je veux avoir l'ADN de Dieu. On va lire Matthieu 5 ce matin. Version le message sur vos écrans, magnifique version de la parole de Dieu, qui dit, voici une autre façon de présenter les choses. Vous êtes ici pour être la lumière, pour faire ressurgir, pour mettre en valeur les couleurs de Dieu dans le monde. Dieu n'est pas un secret qui doit être gardé. Nous allons faire connaître cela au monde, tout comme une ville est visible, accessible au sommet d'une colline. Si je fais de vous des flambeaux, des porteurs de lumière, j'aime quand Christ parle comme ça, des porteurs acteur de lumière. Vous ne pensez tout de même pas que je vais vous cacher sous un seau, n'est-ce pas? Je vous mets sur un trépied. Maintenant, je vous ai mis au sommet de la colline, sur un trépied, brillez. Gardez vos maisons ouvertes. Soyez généreux avec vos vies. En vous ouvrant aux autres, en vous ouvrant aux autres, vous allez inciter les gens à s'ouvrir à Dieu, ce Père céleste généreux. Une église que Dieu bénit continuellement a comme première caractéristique une intimité avec Dieu. Une intimité avec Dieu. Chaque chrétien devrait être intime avec le Saint-Esprit. Avoir une romance, une histoire d'amour avec lui. L'église primitive, l'église du livre des Actes que nous allons lire ce matin, est née lors d'une réunion de prière. Rien de ce que Dieu fait ne peut commencer en dehors de l'intimité avec Dieu. Si vous et moi, nous commençons des projets sans être intimes avec Dieu, il y a de fortes chances que ce projet n'aboutisse pas tel que Dieu voudrait qu'il aboutisse. L'aboutissasse. La présence de Dieu, c'est ce qui fait la différence entre une église morte et une église vivante. La présence de Dieu, c'est ce qui fait la différence entre un chrétien mort et un chrétien qui aime Jésus. Église, le péché t'éloignera du feu de Dieu, mais le feu de Dieu t'éloignera du péché. Un chrétien en feu tombe plus difficilement qu'un chrétien froid. J'aime cette image de Reinhard Bonnke. Il y a devant lui, il donne l'image, il dit, voilà devant moi, il y a deux casseroles. Deux casseroles remplies d'eau. L'une est en train de bouillir parce que le feu est dessous. L'autre reste froide parce que le feu n'est pas dessous. Et il dit, je veux faire du thé. D'après vous, quelle casserole vais-je choisir? La casserole d'eau bouillante ou la casserole d'eau froide? Qui dit bouillante? Et vous avez raison. Il choisira la casserole d'eau bouillante pour faire infuser son thé. Dieu fera exactement le même choix. Pour faire infuser son parfum, il choisira un chrétien bouillant. Qui veut être utilisé par Dieu? Soyez bouillant. Soyez en feu. Ça commence par un moment de prière. Regardez avec moi dans Acte 1, verset 8. Acte 1, 8 nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mon ami, Jésus disait ici, « Vous recevrez une puissance. » La vie chrétienne est caractérisée par la puissance de Dieu, sinon ce n'est pas la vie chrétienne. Les gens me disent, « Bruno, tu as fait une erreur en appelant l'église, l'église extravagance. » Vous êtes trop radical. Dieu est raisonnable. Dieu est raisonnable. Dieu n'est pas raisonnable. Il m'aime. Dieu n'est pas raisonnable. Il me pardonne. Ma raison ne peut pas être la prison de Dieu. Écoutez bien cela. Nous avons deux options ce matin. Écoutez bien ce qui suit. Ou bien nous laissons Dieu nous transformer à son image. Et nous sommes donc le reflet de Dieu. Ou bien nous transformons notre Dieu à notre image et nous créons une idole. L'Église ne peut pas se permettre de laisser sa propre imagination, ses propres limites, avoir une image de Dieu. Nous ne sommes pas là pour avoir une image de Dieu, nous sommes là pour être l'image de Dieu. Parce que Dieu est plus grand que l'image que j'ai de lui. Dieu n'est pas limité par ton expérience ni la mienne. Dieu est plus grand que nous. Et pour découvrir le Dieu que tu sers ce matin, prie. Et alors tu seras témoin. Témoin de quoi? Témoin de Christ. Qu'est-ce que cela signifie, être un témoin de Dieu? C'est voir ce que Dieu fait et témoigner de ce que Dieu fait. Si tu ne vois rien dans ta vie, tu ne pourras pas témoigner. Mais Dieu veut faire des choses en toi et au travers de toi, Église. Il veut que tu imposes les mains aux malades partout où tu es. Il veut que tu ailles décréter la vie de Dieu partout. Cela commence par la prière. Dans Actes 1, 14, la parole de Dieu dit « Tous persévérez d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Et dans le mot grec ici, c'est les frères de sang. Marie a eu des enfants après Jésus. Elle n'est pas restée vierge. Gloire à Dieu pour Joseph. Les chrétiens ne savent pas lire la parole de Dieu, jamais catholiques, mais là ils se trompent gravement. Marie n'est pas restée vierge. Ce n'est pas la Vierge Marie, c'est Marie tout court. Elle était vierge pour concevoir Jésus, mais après les deux cocos ont fait ce qu'il fallait. Gloire à Dieu pour Marie. Gloire à Dieu pour Joseph. Jude était l'un des frères de Jésus. Jacques, qui a écrit l'épître de Jacques, était l'un des frères de Jésus. Et ceux qui jugent les familles recomposées, regarde celle-ci. Jude et Jacques n'ont pas pour père Dieu le Père, mais Joseph. C'est pas grave, c'est trop dangereux là. Je suis pas en train qu'il faut faire ça. Je suis en train de vous dire que rien n'est plus grand que Dieu. Aucune situation n'est finale tant que Dieu est dans ta vie. Aucune situation. Dieu prend les ruines et en restaure et fait un palace. Regarde ton voisin et dis, tu es appelé à être un palace. Brille. Écoutez ça, je ne vais pas être long, mais je vais vous donner un premier principe puissant. Comment la prière fait la différence. Écoutez ça. Dans Actes 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, encore une fois, l'unité, tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, tout d'un coup, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, tout le monde dit tous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a trois choses qui se sont passées dès l'instant où Dieu a envahi l'Église. Et trois choses devraient se passer ce matin dans l'Église Extravagance. Et trois choses se passeront toujours dans une Église qui sert Dieu, qui cherche Dieu. Premièrement, un vent puissant, surprenant. Quand Dieu est dans un lieu, il est toujours puissant et surprenant. Je vais vous dire une chose qui est très très simple. Dieu n'aime pas la religion. La religion déforme Dieu. La religion, c'est l'image que l'homme a de Dieu. D'abord, il y a la puissance dans une église qui est intime. Il y a la puissance dans une vie qui est intime. Il y a la puissance dans un couple qui est intime. La puissance de Dieu, premièrement. Deuxièmement, il y a des langues semblant comme des langues de feu. Et le mot feu ici parle plutôt de la sainteté. Quand une église prie, vraiment, il y a de la sainteté, de la pureté. On ne fait pas tout et n'importe quoi. On fait tout ce qui honore le roi. Il y a une pureté, des langues de feu. Pourquoi ? Parce que quand on parle, c'est pur, c'est intègre. Il n'y a pas de « je dis une chose, ça sonne creux ». « Je dis une chose, ça sonne faux ». Non, il faut que ça sonne vrai, il faut que ce soit pur. Il y a le feu, tout le monde dit « feu ». La puissance est feu. Ok ? Et troisième chose ici, il dit que d'autres... Il se met à parler d'autres langues. D'autres langues. D'autres langages. Comme le Saint-Esprit se mire... c'est quoi ? Comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Écoutez ça. Ce qui me touche ici, c'est que tous ont parlé des langues différentes. Et tous ont eu un langage spécifique. Quand le Saint-Esprit descend dans une vie, tu deviens un langage. Le langage de Dieu. Certains parleront français ou créole ou anglais ou allemand. D'autres parleront hip-hop, rap, chiffres, comptabilité. Le discours que tu as, le style que tu as, la vie que tu as est un langage pour ceux qui t'entourent. Dieu n'est pas religieux, il veut que tu exprimes ce qu'il est par une langue conduite par le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit, il est extraordinaire, il n'est pas du tout dans une boîte. Écoutez ça. Quand le Saint-Esprit est dans une vie, comme ce matin, quand Dieu est là par son esprit dans une église comme la nôtre, le verset 41-43 nous montre ce qui va se passer, ce qui se passe en ce moment. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Qui aimerait avoir les fruits de l'Église primitive? Eh bien, nous devons pratiquer ce que l'Église primitive faisait. La première chose, c'est prier. Mon oncle Jim m'a dit un jour, je n'oublierai jamais cela, il m'a dit: Bruno, ceux qui prient, brillent. Prie et brille. Deuxième grand point ce matin, premièrement, c'est qu'une église qui marche dans un ciel ouvert, premièrement, c'est qu'il prie. Deuxième chose, et j'aime ce passage, je finis par celui-là ce matin. Nous devons parler le langage de tous les jours. Écoutez bien ça, hein, commun à ceux qui nous entourent. De verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Verset 5. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. Verset 8. Comment se fait-il, écoutez ça, que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Écoutez le contexte. Tout d'un coup, ils sont en train de prier, le feu de Dieu descend. Ils reçoivent de la part de Dieu des langues nouvelles. Ils se mettent à parler des langues nouvelles qu'ils n'ont jamais apprises auparavant. Et le monde entier réuni ce jour-là comprend ce qu'ils disent dans leur propre langue maternelle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi aujourd'hui? Ça signifie qu'une église qui est remplie de l'esprit a un langage que le monde comprend. Une église remplie de l'esprit n'est pas trop spirituelle et trop mystique. À un tel point que le monde ne comprend pas ce que nous voulons dire. Il dit ici, comment se fait-il que nous comprenons ce qu'ils disent? Mais ils ne parlent pas notre langue et pourtant ils parlent notre langue. Le verset 11 nous dit: nous venons de la Crète et de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Quand une église est remplie de l'esprit, elle est capable de témoigner de ce que Dieu fait à n'importe quelle génération, n'importe quelle race, n'importe quelle culture, n'importe quelle façon de se comporter. Je parlais à Marcel cette semaine et Marcel était invité à la soirée de la SACEM, c'est ça? Il a joué avec les gars, deux chants ou trois chants. Il a joué et il m'a dit que ça m'a touché parce que j'ai vu ça, je l'ai vu il y a 3-4 ans. Je ne te souviens de ça, Marcel. Tu allais chanter devant le monde et le monde allait être touché par l'onction dans ta vie. Il a pris sa guitare et il s'est mis à chanter. Et m'a dit: la présence de Dieu est descendue devant un parterre d'artistes créoles. Et il a témoigné de Dieu à des stars dont je vais taire le nom, à des stars de La Réunion. Et j'ai dit: waouh, fonce! Et bien lui, il a un langage que Dieu lui donne pour toucher les hommes et les femmes de La Réunion qui chantent dans le monde du Maloya Sega. Raga, Zaga, Faga, Shogun, Baga. Je ne vois pas quelqu'un qui aime le tango aller parler le langage d'un jeune homme qui aime le hard rock. Ils ne vont pas s'entendre sur la rythmique ou la voix. Je ne vois pas quelqu'un qui n'aime pas faire du tout le sport. Il n'aime pas le sport, il aime manger. On va prendre ça comme ça. Parler de sport à un sportif, lui va te dire: je ne mange pas ça, je ne mange pas ci, je ne mange pas ça, je ne mange pas ci, je ne mange pas ça. Le gars qui aime faire à manger, il dit: mais ça va pas ou quoi? Mais tu, ta vie est nulle, je vais manger moi. Mais deux sportifs se rencontrent, de quoi ils parlent? De course. Deux gars qui aiment manger, faire à manger, se rendent compte de quoi ils parlent, de bouffe. Le point est le suivant ce matin: ne soyez pas des hommes et des femmes trop spirituels à un tel point que les gens ne comprennent pas votre langage. Regarde, on a dit: est-ce que tu parles le langage de Dieu? Écoutez ça, il me reste 2 minutes, écoutez ça, écoutez bien ça. Ta vie spirituelle devrait te rapprocher de ceux qui ne le sont pas. Une vraie vie spirituelle te rapproche de ceux et de celles qui ne connaissent pas Dieu. les chrétiens qui en ce moment disent, nous on est saints, on est saints, on sort du monde, sont anti-bibliques. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut pécher. Je dis qu'il faut fréquenter le maximum de pécheurs. Parce que tu ne brilles pas lorsque tu es dans le soleil. Tu brilles dans les ténèbres. Et le Saint-Esprit descend ce jour-là sur l'église. Et le premier jour, 3000 âmes se donnent à Christ parce qu'ils entendaient leur langage. Ils comprenaient le cœur de Dieu dans leur culture. Ils comprenaient le cœur de Dieu dans leur façon d'être. C'est pour cela qu'en ce moment, nous vous demandons humblement, s'il vous plaît, Église, de penser sérieusement à devenir la solution de Dieu pour un monde qui se perd. Il y a des prostituées qui travaillent, façon de parler, entre parenthèses, qui travaillent quasiment tous les soirs, si ce n'est tous les soirs. Allons les chercher. Je dis, allons les chercher. Allons les aimer. Les enfants battus qui sont seuls, allons les chercher. Allons restaurer ces familles. Vous savez, on m'a demandé dernièrement, on est venu me voir, on m'a dit, toi qui es pasteur, tu parles beaucoup de restauration, de familles brisées. Et moi, mon mari me bat. Tu comptes faire quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je dis, moi, pas grand-chose. Mais Dieu veut restaurer et toi et ton mari. Contrairement à des associations qui prennent la femme, qui la retirent du mariage et qui virent le gars, le met en prison à vie, il est perdu, lui c'est fini. Mais mon ami, le gars qui crée ces actes que je ne supporte pas bien sûr, a aussi autant besoin d'aide que la victime. Que tu le veuilles ou non, Dieu aime tous les pécheurs. Il a été choqué, ouais mais tu comprends ma douleur. Je sais, je ne vis pas ce que tu vis, mais je dis tout simplement que Dieu veut te sauver, toi et ton mari. Je maintenant imagine que dans un an, dans 6 mois, ton mari donne son cœur à Jésus-Christ et que tous les deux soient restaurés et que tout ça soit le passé du passé. Il n'y a plus rien. Nouvelle création tous les deux. Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Leur encourageant, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il y a un monde qui attend que l'Église partage la bonne nouvelle.